que dans les temps du roi Jésus, tu remplirais la terre entière de la connaissance de ta gloire comme la mer remplit le fond des océans. Et nous te louons parce que tu le fais par l'Église. Ce que nous te demandons, Seigneur, ce que nous voulons reconnaître ensemble, c'est notre profonde inadéquation, notre incapacité, mon incapacité, de pouvoir être seul, fidèle à ta parole. L'incapacité de chacun de laisser ta parole couler dans nos cœurs et changer nos vies. Nous voulons, Seigneur, au moment où nous allons écouter ta parole, te demander que par ton Saint-Esprit, tu ouvres nos cœurs pour que ta parole ne coule pas comme de l'eau sur les plumes d'un canard, mais qu'elle descende en nous et qu'elle fasse ce que tu attends en nous et pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à lire ce texte. On commence à partir du verset 2. Voilà ce que Paul dit. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, mais que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient vers vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends témoignage. En effet, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Naphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archip, veille sur ton enseignement, veille sur ton service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Jusqu'ici, notre lecture de la parole. On prie que le Seigneur nous rende capables de la comprendre et de la méditer. L'Église de Toulouse Métropole est le fruit d'ouvriers qui ont travaillé en vue de voir l'Église grandir et l'Évangile être proclamé dans la région toulousaine. C'est comme une longue course de relais où tour à tour, des personnes se sont passées l'Évangile pour le proclamer à chaque fois un peu plus loin, dont le début de cette course, c'est Paul qui a donné l'Évangile à Épaphras et que Épaphras a été proclamé à Laodicée, etc., jusqu'à Toulouse. Métropole. Si nos églises grandissent, c'est parce que, comme l'église de Colosse, nous sommes au bénéfice de ce réseau de personnes, de cette course de personnes qui se sont transmises tour à tour le témoin de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une course de relais ou si vous êtes passionné par le relais, mais qu'est-ce que c'est désopinant de voir une équipe nationale, par exemple, à s'être préparée pendant des mois et des années pour être performante, et soit, pendant la course de relais, mordre sur le couloir d'à côté et disqualifier, ou pire encore, au moment de la transmission du témoin, lâcher le témoin, ou le donner hors zone de transmission du témoin, équipe disqualifiée. Une église qui grandit, nous dit Paul dans ce texte, c'est pas juste une église qui bénéficie du réseau de l'Évangile pour grandir, mais les signes caractéristiques d'une église qui grandit, c'est aussi une église qui fait grandir, qui participe activement au réseau de l'Évangile. Et si on va les résumer ces quelques versets, on pourrait dire cela, une église qui grandit et qui fait grandir. Et comment Paul le montre? Mais Paul le montre d'une manière très simple. Il nous montre qu'une église qui grandit et qui fait grandir, c'est une église qui prie avec persévérance. Une église qui grandit et qui fait grandir, c'est une église qui utilise bien le temps qui lui est donné. Et dans la dernière partie, Paul nous montre qu'une église qui grandit et qui fait grandir, c'est une église qui prend sa place dans le réseau de l'Évangile. J'ai déjà été encouragé par l'annonce de Sam, juste avant, qui nous montre que déjà, votre Église a compris cela. On va se laisser encourager par cela d'une manière plus spéciale. Une Église qui grandit et qui fait grandir, c'est d'abord une Église qui prie avec persévérance. Tout commence par la prière. Au verset 2, regardez ensemble avec moi. Et pour être plus précis, toute action est rendue possible par la persévérance dans la prière. Ouvrez vos Bibles, regardez au verset 2. On le lit ensemble, ce verset 2. Persévérez dans la prière, dit Paul. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Frères et sœurs, chaque moment passé à genoux dit quelque chose de ce que nous avons compris de la suprématie de Jésus-Christ. Surtout, sur notre confiance que le plan de Dieu pour le monde est le meilleur toujours. Sur le fait que nous sommes totalement dépendants de lui dans tous les domaines. Si ta vie de prière est atrophiée, si tu luttes pour prier, si en tant qu'église c'est dur dans les cellules, ou ensemble, ou par binôme et par trio, de prendre du temps pour prier aussi dans la prière, c'est que quelque part il y a un bug au niveau de la dépendance avec Dieu, au niveau de la conviction que le plan de Dieu est le meilleur toujours, et au niveau de ce qui se passe dans nos cœurs. C'est pour ça que Paul lui-même demande qu'on prie pour lui. Regardez versets 3 et 4, et on va les lire avec moi. Versets 3 et 4, même Paul, on pourrait se dire, Paul, il n'a quand même pas besoin qu'on prie pour lui. C'est l'apôtre Paul. Regardez ce que Paul dit de lui-même. Priez, je cite Paul, priez en même temps pour nous, l'équipe de Paul. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis un prisonnier, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. On est loin d'un Paul qui se repose sur ses capacités. D'un Paul qui se repose sur le fait qu'il est apôtre, que d'autres églises, il en a déjà fondé, que des prédications ou des enseignements fondés sur l'Écriture, il en a déjà donné, donc il n'y a plus besoin de prier pour lui. C'est le contraire exact. Paul, qui n'a jamais eu autant de bouteilles qu'au moment où il l'écrit dans la lettre aux Colossiens, dit « Priez pour moi, afin que je puisse parler du mystère de Christ, de l'Évangile, comme je le dois. » Extraordinaire. Priez avec persévérance. Une église qui grandit, qui fait grandir le royaume de Dieu, est une église qui prie avec persévérance. On ne peut pas prétendre avancer dans la foi, on ne peut pas prétendre rester enraciné en Christ, le connaître et le servir lui seul, On ne peut pas prétendre résister aux assauts des systèmes et des dieux de ce monde, des philosophies, des techniques à la mode. On ne peut pas résister à ces choses-là. On ne peut pas produire une vie sainte qui plaît à Dieu sans la prière persévérante. Priez avec persévérance. Priez pour moi. Priez les uns pour les autres. On ne peut pas vivre un vrai décentrage de nous-mêmes et un vrai recentrage sur Christ, sur ses priorités, sur son plan de vie, sur ses stratégies et pas les nôtres. On ne peut pas envisager une proclamation de Jésus efficace. On ne peut pas imaginer de ministères puissants, que ce soit des ministères en vue ou des ministères cachés les uns envers les autres, sans la prière persévérante. Si Paul l'apôtre, qui a rédigé, poussé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, tellement de textes dans la Bible, dit « priez pour moi », pensez pas que c'est bon aussi pour nous. On ne peut pas vivre ces choses-là sans prière persévérante. On ne peut pas espérer voir des gens se tourner vers le Dieu vivant, le Dieu qui fait la paix avec chacun par la croix de Jésus-Christ, sans la prière persévérante. On ne peut pas être une église qui grandit, qui fait grandir, sans la prière persévérante de tous. Il y a une salle de prière là. C'est laquelle? C'est là. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde là, dans la salle de prière. La salle de prière, ça devrait être là. La salle de prière, ça devrait être chez toi, dans un café, dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher, dans ta voiture. Priez avec persévérance. C'est, je crois, Spurgeon qui a dit, un grand prédicateur du 19e siècle, qui résume bien les choses en disant « Satan tremble lorsque le chrétien le plus simple se met à genoux. » Satan tremble, le plus grand des hommes, lorsque le chrétien le plus simple se met à genoux. Amen. Une église qui grandit et qui fait grandir. Comment est-ce qu'on peut se donner les moyens de remettre tout à plat? On peut se dire ça à partir de ce midi ou ce soir, dans la semaine qui vient. On peut se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses à plat sur notre vie de prière chacun, dans les cellules, en tant que couple, avec nos enfants? Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de choses pratiques à faire. Il y a plein d'aides. On peut s'imaginer que c'est toujours mieux, par exemple, de prioriser un créneau particulier dans la journée pour prendre du temps dans la prière, présenter les choses à Dieu, demander à Dieu tout simplement « change-moi », prier pour le prédicateur du dimanche qui vient. On peut imaginer, et ça c'est quelque chose qui m'a bien aidé ces derniers mois, c'est de me relancer dans des petits cartons de prière où j'ai des noms, des situations que je fais défiler jour après jour. Et quelques lettres, quelques petites cartes les unes après les autres, mais ça m'aide et ça me conduit, ça me stimule dans ma vie de prière, parce que je sais que petit à petit, ça élargit mes horizons, ça m'apprend à prier selon les priorités de Jésus-Christ, et pas selon mes priorités. Je prie un peu plus le Seigneur que simplement que j'aille mieux dans ma santé, que ma situation professionnelle se porte mieux. Je prie les choses bien plus glorieuses que ces choses-là. Je les prie aussi, mais je ne prie pas seulement ces priorités-là. Je sais que certains ont même un carton un peu plus grand avec des sujets de prière, des situations, des couples, des familles. Vous pouvez prier les uns pour les autres. Et derrière, quand il y a eu des sujets de prière, mettre les exaucements. Vous savez pourquoi? Pour obéir à l'injonction de Paul qui dit « Veillez de prier » verset 2 dans une attitude de reconnaissance. Reconnaissance pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ. On était ennemis, nous sommes amis. On était loin, nous sommes adoptés. On était sans Dieu. On va vivre avec Dieu pour toujours. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que notre vie de prière dit cette reconnaissance-là? Est-ce qu'on sait compter les bienfaits de Dieu, les mettre tous devant nos yeux et voir en adorant combien le nombre en est grand? La prière persévérante, c'est une caractéristique d'une église qui grandit et qui fait grandir. Je me réjouis beaucoup hein, de voir votre stimulation pour la mission auprès comme la mission au loin. C'est la même mission. C'est par ces deux pendant, la mission auprès à Toulouse, dans votre entourage, votre voisinage, avec votre collègue, avec votre voisin. C'est la même mission que la mission au Togo, en Côte d'Ivoire, chez Benjamin, etc. etc. Parce que par ces situations-là, par ces ministères-là, par ces hommes et ces femmes touchés par l'Évangile, qui proclament et qui vivent l'Évangile où ils sont, le Seigneur est en train de remplir le monde de la connaissance de sa gloire, comme la mer remplit le fond des océans. Et c'est ce qu'il est en train de faire autant avec Benjamin en Côte d'Ivoire qu'avec toi quand tu prends du temps pour aimer ton collègue, pour prier pour lui et pour l'inviter à venir à Christ. Une église qui grandit, c'est une église qui prie avec persévérance et avec reconnaissance. C'est très intéressant de voir comment Paul lui-même demande cela, et comment Paul lui-même demande qu'on prie pour lui, que les Colossiens prient pour lui, pour qu'il garde les bonnes priorités. Et je pense que c'est pour cela qu'il bascule à partir du verset 5 et 6 dans cette notion des priorités et de l'attitude qu'on a dans notre rapport avec les autres. Une église qui grandit et qui fait grandir, c'est une église qui prie avec persévérance, mais c'est aussi une église qui utilise bien le temps. Il s'agit de notre conduite envers, je cite Paul, verset 5, ceux du dehors. C'est-à-dire, pas ceux qui sont très loin, ceux qui ne sont pas encore dans la foi en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore compris combien Dieu les aime, qui n'ont pas encore compris que Dieu, au lieu de les juger, leur pardonne toutes leurs fautes en Jésus-Christ et veut les adopter en Jésus-Christ. C'est ça les gens du dehors. Il peut y avoir des gens du dehors sur notre palier, il peut y avoir des gens du dehors dans notre salle ici. Comment se comporter avec les gens du dehors? Et là, on n'est pas surpris de ce que Paul dit. Il s'agit de soigner notre conduite, mais c'est très intéressant parce que Paul rajoute ici la bonne utilisation du temps. Je pense que c'est ce que signifie cette notion-là. Regardez verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Racheter le temps, c'est bien utiliser le temps. C'est bien mesurer les enjeux. Et le plus ma vie est centrée sur Christ, le plus je dépends de Christ dans ma vie de prière persévérante, le plus j'apprends à prier pour la progression de la proclamation de Christ partout, le plus mes priorités changent et le plus mon utilisation du temps change. J'aimerais vous parler de Rachel. Rachel, c'est une jeune sœur qui est venue au père dans notre famille pendant 4 mois, qui est irlandaise, et elle a dû rentrer en catastrophe il y a un an et demi à la maison parce que son père était atteint d'une tumeur au cerveau, grave ici. Les médecins ont dit, on va essayer d'opérer, on va essayer d'enlever, mais maximum, il n'en a plus que pour 2 ans. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Son père est en train de mourir, la tumeur a repris. Jeune fille de 15 ans, et il y a quelques semaines, je lui ai eu au téléphone, et je lui demande comment elle va. Elle me dit, on vit des moments spéciaux, parce que on vit des moments où on est toute la famille autour de papa, et on éclate de rire et tout d'un coup on pleure, on tombe en sanglots, on ne sait pas comment gérer. Je lui dis, toi, comment tu vas? Elle dit, mais moi je vais bien, parce que c'est des moments qui m'aident à recalculer tout mon temps. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été ridicule de prendre tout ce temps devant la télé, alors que j'aurais pu prendre du temps avec mes meilleurs amis pour leur parler de Christ. Qu'est-ce que j'étais bête de prendre tellement de temps dans des discussions juste superficielles, de perdre mon temps dans tellement de sport, de sport, de sport, de sport, alors que autour, ok, du sport, mais j'aurais pu et je peux maintenant prioriser sur les choses qui comptent vraiment, qui sont éternelles. Et la situation de papa qui me fait pleurer, qui me rend vraiment le cœur plein de douleur, me permet de recalculer mon temps. Baf, baf. Étienne, 42 ans, pasteur, bien sur lui, enseigné par une jeune sœur sur la manière d'utiliser correctement le temps. Racheter le temps. Et ce que Rachel dit, dans sa grande maturité en Jésus-Christ, c'est rien d'autre que ce que Paul dit là. Savoir bien utiliser le temps. Notre attitude. Et au cœur de notre attitude, verset 6, vous voyez ce qu'il y a au cœur de notre attitude? Est-ce que c'est juste quelque chose de passage? Non. Verset 6, c'est la parole. Pour bien utiliser le temps, nous sommes invités à bien utiliser notre parole. Et ça, c'est pas une surprise, puisque Paul a dit tout le long de sa lettre que l'Église qui grandit en Christ, c'est une Église qui proclame Christ. Comment est-ce qu'on participe à cela? Il faut que notre parole soit habitée par Christ. Paul ne le dit pas exactement comme ça, regardez comment il le dit. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment est-ce que l'Église de Toulouse Métropole va pouvoir transmettre le témoin de l'Évangile plus loin? C'est pas juste un réceptacle de grâce et un réceptacle d'Évangile, ces locaux et cette Église, et chacun de nous. C'est juste un canal où la grâce va passer plus loin à travers vous, où l'Évangile va passer plus loin à travers vous, où le pardon que Dieu offre aux hommes à travers Jésus-Christ passe à travers vous vers d'autres personnes. Et ça passe par la parole. Que votre parole soit accompagnée de grâce, dit Paul. Tout simplement parce qu'il est possible, je pense, de confondre assurance éternelle et arrogance personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Nos cœurs sont tellement tortueux que lorsqu'on reçoit l'assurance éternelle d'être héritier de Dieu, co-héritier de Christ, on peut utiliser ça comme un mode d'arrogance personnelle. Et parfois, des amis autour de nous, qui nous regardent vivre, qui ne sont pas dans la foi, peuvent nous faire ces reproches-là. Et parfois, ils ont raison de le faire. Parce qu'on confond assurance éternelle et arrogance personnelle. Que votre parole soit, je cite Paul, toujours pleine de grâce. Que le pardon que Dieu nous offre transforme notre manière de nous parler les uns aux autres et de parler autour de nous. Que la croix de Jésus-Christ par laquelle Dieu ne nous tient plus compte de nos offenses soit le mode opératoire par lequel nous parlons autour de nous. Ok, dans nos couples, nos familles, dans nos foyers, dans notre église, dans nos cellules, mais autour de nous, envers les gens de l'extérieur. Une parole habitée par le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et Paul ne s'arrête pas là, ce qu'il rajoute, qu'elle soit assaisonnée de sel. Quand il dit que votre parole soit habitée, remplie de la grâce, il n'est pas en train de dire que c'est une sorte d'amour blanche-neige, et si tout le monde est gentil, un monde de bisounours, où tout le monde peut vivre ce qu'il veut, où tout le monde peut croire ce qu'il veut, c'est ça la vie. La parole que nous devons avoir dans le cadre d'une vie remplie par la grâce est une parole qui doit être assaisonner le sel. Elle doit être pertinente dans ce que nous vivons, dans notre rapport les uns avec les autres. La pertinence de l'Évangile dans les circonstances, dans ce collègue qui est en train de divorcer, dans la vie de cette collègue qui galère avec ses ados, dans la vie de ce chef ou de ce voisin qui a des emprunts jusque-là, et qui a déjà pensé au suicide. Assaisonné de grâce, mais aussi habité par la grâce, mais aussi assaisonné de sel, pour montrer comment la pertinence de l'Évangile, ce que Dieu a fait en nous en Jésus-Christ, concerne ces situations-là. Que votre parole soit toujours habitée par la grâce et assaisonnée de sel. Et c'est pas tout. Paul souligne qu'une église qui grandit, qui fait grandir, c'est aussi une église qui prend sa place dans le réseau. Et comme Paul finit, nous on finit avec ça. Paul est en prison, vous l'avez noté, hein. Il parle des chaînes, il parle de ses liens, il parle d'être emprisonné, il parle de son compagnon de captivité, verset 3, verset 10. Verset 18, souvenez-vous de mon emprisonnement, Paul est arrêté dans tous les sens. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ça va pouvoir continuer? Je ne sais pas, vous seriez coach pour rendre les choses efficaces. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez pour que ça continue? Et quels critères, par quels critères vous choisiriez vos équipes? Et là, il y a beaucoup de surprises dans cette liste des équipiers de Paul. Sur la base des exhortations à l'action, dans les versets 2 à 6, Paul s'associe à toute une foule de personnes anonymes, engagées avec lui dans la même mission. C'est pour ça que j'ai pris une pause à chaque nom quand j'ai lu. Plein de gars anonymes, plus ou moins connus, certains très connus, certains pas connus du tout, à nous, complètement inconnus. Mais pourquoi Paul fait ça? Autour de Paul, il y a des gens ordinaires, comme vous et comme moi. Mais il a des collaborateurs fidèles. Et une église qui grandit, qui fait grandir, c'est une église qui célèbre cette richesse-là, comme Paul le fait lui-même, lui, l'apôtre, des compagnons, parce qu'ils ont compris l'urgence, parce qu'ils ont une vie de prière efficace, parce qu'ils rachètent le temps, ils utilisent bien le temps, parce qu'ils prennent activement leur place dans le réseau. Et Paul, en les citant, les met devant la face des Colossiens en leur disant « C'est ça qu'il faut faire ». Et si, par le Saint-Esprit, cette parole de Paul vient jusqu'à nous ce matin, c'est pour qu'en voyant Épaphras, Démas, Épaphrodite, Paul, Marc, on puisse se dire « C'est ça qu'il faut faire ». C'est impressionnant de voir comment Épaphras incarne la persévérance dans la prière. Hein. Regardez au verset 12 et 13. Je le relis avec vous. Épaphras, c'est l'un des vôtres. Il vous salue, les serviteurs de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre, littéralement, d'agoniser pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Extraordinaire comment Paul utilise Épaphras et sa manière d'être pour enseigner les Colossiens dans leur manière de prier. Et dans ce réseau, il n'y a pas que Épaphras, il y a aussi Marc, le cousin de Barnabas, et Luc, le médecin, qui ont écrit les évangiles. Marc et Luc, qui nous sont arrivés jusqu'ici, ils ont passé tellement bien le témoin que leur témoin est arrivé jusqu'à nous. Et de la même manière que les Laodiciens donnent les écrits de Paul aux Colossiens, que vice-versa, les Colossiens donnent les écrits de Paul aux Laodiciens, de la même manière, notre manière de participer au réseau de l'Évangile, c'est de transmettre la parole de Dieu plus loin. Il y a ces anonymes Aristarque et Justus que j'aime dans ces versets, qui sont des compagnons de service, des sources de vrai réconfort. Et c'est génial parce que Paul ne souligne pas grand-chose d'eux. Regardez Aristarque et Justus au verset 10. Ils sont finalement juste là. Ils sont là, fidèlement. Ils font part de ce que Paul vit. Ils transmettent ce que les Colossiens vivent. Ils font un petit peu ce qu'on a entendu là dans les nouvelles. Ils font ce que vous entendez quand vous entendez des nouvelles des missionnaires que vous soutenez. Et ce peu là qu'au stade où on est, on puisse se dire... Ah, moi, je suis trop faible. J'y arriverai pas, je ne suis pas Paul. Je ne suis certainement pas comme Épaphras au verset 12. Je ne ressemble pas à ce gars-là. Moi, je suis faible. J'y arriverai jamais à faire ces choses-là. Mais le cadre dans lequel Paul pose les choses, c'est le cadre de la grâce. Et les gens dont Dieu se sert pour faire grandir son Église sont des gens tout simples comme vous et moi. Déjà tout frêle et tout fragile. C'est, je pense, l'allusion de Paul à Marc au verset 10. Marc, on le sait par le livre des Actes, avait laissé tomber, s'était découragé, n'avait pas voulu suivre Paul. C'était un peu un style lâche un peu, un gars qui manque de courage. Et Paul et Barnabas s'étaient frités sur cette question-là. Et on voit Marc qui, dans l'équipe, là, on voit Marc qui a réintégré le groupe. Et d'un autre côté, on a un gars qui s'appelle Démas, toujours dans le même coin, au verset 14. Démas, un collaborateur proche de Paul. mais qui a fini par tout laisser tomber. Et Paul dit, il a laissé tomber tout par amour pour ce monde. Des gens simples, des gens frêles, fragiles comme nous, mais qui nous enseignent. Parce que qu'est-ce que Paul dit quand il souligne ces personnes-là, qui participent au réseau de l'Évangile ? C'est que tout simplement, comme des masses, il est possible de bien commencer, mais de mal finir. Tu sais, tu te dis, moi c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai tout compris, je parle de Jésus autour de moi, je fais partie des équipes. Mais Paul rappelle qu'il est possible de mal finir après avoir bien commencé. Mais Paul rappelle aussi, avec Marc, le contraire. Est-ce que tu as vécu des échecs, des temps de lâcheté, des temps où tu as renié Jésus dans ton travail, avec tes amis, dans ta famille? Regarde ce que Paul dit de Marc. Il est dans l'équipe, Marc. Et il est en train de nous dire, il est possible, ok, de bien commencer, de mal finir, mais il est aussi possible de mal commencer et de bien finir. Vous ne trouvez pas que c'est une promesse encourageante pour nous, pour notre ministère dans l'Évangile? C'est un réseau solide, ce réseau de l'Évangile. Et cette Église, comme Paul le souligne, c'est une Église qui prend part et qui prend sa place dans le réseau, parce que Paul souligne bien qu'ils ne sont pas juste observateurs de ces gars-là. Et c'est pour ça qu'il parle des Laodicéens, c'est pour ça qu'il parle des Colossiens ici, parce qu'ils ont leur place dans le réseau. Et Paul attend qu'ils prennent leur place dans le réseau, pour que l'Évangile coule jusqu'à eux et ne soit pas dans une voie de garage, mais continue par eux pour être proclamé tout autour. Enfin, pour finir, avant un temps de prière ensemble, on se rappelle de l'essentiel. Une Église qui grandit et qui fait grandir, c'est une Église qui est prise avec persévérance. Une Église qui grandit et qui fait grandir, c'est une Église qui utilise bien son temps. Ne vous perdez pas dans des activités. Concentrez-vous sur les gens. Une Église qui grandit et qui fait grandir, c'est une Église qui prend sa place dans le réseau. Et ça finit avec un rappel et deux appels. D'abord, le rappel, c'est que les Colossiens, comme vous, comme l'église où je suis, sont au bénéfice du ministère et du soutien d'autres. Et ça doit nourrir notre reconnaissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu as donné dans le passé, pour ce que tu donnes dans le présent, pour soutenir notre ministère dans l'église ici. Nous sommes au bénéfice du ministère des autres. Et les deux appels, c'est d'abord celui de célébrer le réseau, de nommer des personnes, de les nommer dans nos prières, de prier pour elles, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique noire, quelque part dans la banlieue de Toulouse, ailleurs en France, en francophonie, ou ailleurs dans le monde, en Bulgarie par exemple. Savoir se souvenir, savoir aimer, savoir prier pour les autres, comme Paul exhorte les Colossiens à le faire, suivant l'exemple d'Épaphras, qui le fait déjà pour eux. Et le deuxième appel, c'est l'appel à prendre des risques pour l'Évangile au niveau local, mais aussi pour le réseau. J'aime ces promesses de dons dont Samuel nous a parlé avant, c'est super. Et c'est une Église qui prend le risque. Et je pense que vous devez continuer à faire ça, et le faire non pas avec crainte, mais avec confiance. Avec confiance, parce que le travail que Dieu a commencé par le ministère de Paul auprès des Colossiens et qui s'est continué dans l'histoire, c'est un travail qui va se continuer à travers votre Église, dans votre entourage immédiat, comme jusqu'aux extrémités de la terre. Tout simplement parce qu'une vraie Église qui grandit de la croissance qui vient de Dieu, c'est une Église qui grandit et qui fait grandir. Je vous invite à un temps de silence, de prière, peut-être de première remise à plat sur où en est ta vie de prière, où en est notre vie de prière, où en est ta vie, ton rapport avec le temps, où en est notre rapport avec le temps en tant qu'Église. Et je conclurai par la prière. Nous te louons, Seigneur, parce que nous savons, en lisant ce que Paul dit aux Colossiens pour conclure, que tu es en train d'accomplir la vieille promesse dont nous avons parlé au début, de remplir le monde de la connaissance de ta gloire comme la mer remplit le fond des océans. Et nous te louons parce que tu es venu jusqu'à nous. Nous te louons parce que ton évangile est parvenu jusqu'à nous, mais nous te louons aussi parce que tu nous montres encore aujourd'hui comment tu veux que ton évangile passe par nous, autour de nous. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, en tant qu'église, que ce soit l'église de Toulouse Métropole ou l'église de Moissy où je suis pasteur, se considère comme une voie de garage, comme uniquement un réceptacle pour l'évangile, une fin, un cul-de-sac. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous montres comment tu souhaites que nous prenions notre place dans le réseau et que tu nous aides à le faire dans la dépendance, dans la confiance. Je veux vraiment te demander de bénir l'église de Toulouse Métropole. Je te remercie, Seigneur, pour ces locaux qui sont un outil formidable. Je te prie que tu les gardes de toute adoration des quatre murs et de la structure. Et je te supplie, Seigneur, que tu fasses d'une église qui grandit dans l'Évangile, par l'Évangile. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses celles et ceux qui parmi nous sont en action et sont dans l'action de l'Évangile autour d'eux. Et je te prie que tu les gardes de tout orgueil, que tu les gardes de toute faim comme des masses. Et Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui parmi nous ont vécu des échecs, des démissions, des reniements. Je te prie, Seigneur, que tu proclames Marc à leur cœur et que tu leur rappelles que tu es le Dieu de toute grâce et que tu veux les utiliser dans le réseau de l'Évangile pour la croissance de ton royaume et pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.